Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
On your marks.
Salut à tous, bienvenue dans l'heure olympique. Je suis Maxime Dupuis. C'était une journée à ramasser de l'or. C'est au final une journée à deux médailles de bronze. C'est quand même pas une journée à pleurer parce qu'on a envie de positiver comme Teddy Riner. La vie continue, la compétition aussi. L'événement du jour, donc c'est ce vendredi plus que mitigé. Il y a 5 ans, à Rio, la France avait gagné 7 médailles, dont l'or pour Riner, évidemment. Elle en était à 18 breloques, elle en est aujourd'hui à 13. On va se poser la question suivante, est-ce qu'on peut encore aller jusqu'à 40 médailles d'ici la fin des Jeux? La question qui fâche tournera ensuite autour de Teddy Riner. Peut-il se contenter du bronze? Un autre roi déchu, Novak Djokovic, il venait pour la totale. Ce vendredi, il a laissé filer l'or en simple et en double. La troisième partie de l'émission lui sera consacrée. Enfin, on parlera de l'événement de demain. On se penchera sur Florent Manaudou. Le Français est en demi du 50 mètres nage libre. Peut-il réussir un énorme coup? Pour répondre à ces questions, je suis entouré par les sémillants Laurent Vergne, Glenn Cellier et Martin Mosnier. Une triplette en or. Messieurs, comment allez-vous?
Tout va bien. Bonjour Maxime, bonjour à tous.
Salut tout le monde.
Ça va un peu mieux que la délégation française, on est un peu plus en forme, on va dire.
C'est ce qu'on va voir. Avec le premier sujet, on commence par ce drôle de vendredi. On espérait 3 médailles d'or et peut-être un peu plus si affinité. À l'arrivée, on a 2 médailles en bronze. Faut-il s'inquiéter pour les ambitions françaises? 13 médailles après une semaine, on est grosso modo à un tiers de l'objectif fixé qui était autour de 40 médailles. Messieurs, va falloir accélérer le mouvement et drôlement quand même.
Ouais, moi, je trouve que tu as été gentil, Maxime, en parlant d'une journée mitigée. Pour moi, ce n'est pas une journée mitigée. Franchement, c'est une journée qui n'est pas loin d'être catastrophique. Alors oui, il y a eu les deux médailles de bronze de Teddy Riner et Romain Nicot qui ont un peu sauvé la mise. Et il y aura peut-être des journées où on aura moins que deux médailles de bronze. Mais si on regarde le potentiel français en nombre de médailles et même de titres au début de cette journée… On était à 6 ou 7 avec potentiellement 2 ou 3 médailles d'or, ça n'aurait pas été extravagant. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on n'avait pas seulement des chances de médailles, on alignait aujourd'hui quelques-unes de nos plus fortes chances de titre olympique. Donc finir avec 2 médailles de bronze, tu parlais du 7e jour de compétition, donc le vendredi, le premier vendredi à Rio en 2016, où on avait vécu une journée un peu folle avec 6 médailles, 3 en or, 3 en argent, c'était un peu le même type de journée avec la catégorie des lourds en judo. Il y avait eu Teddy Riner, il y avait eu Émilie Andéol en or. On a vu une médaille d'or également en aviron. Le calendrier n'était pas tout à fait le même, mais c'était comparable parce qu'on avait la finale du 50 mètres nage libre avec Florent Manaudou, qui était également une grosse chance de mettre de titre. Alors, il avait eu que l'argent, mais il avait eu l'argent. Là, le problème, c'est qu'on a aligné, par exemple, les épéistes en escrime par équipe, qui étaient triple champion olympique en titre, et qui avait toujours été sur le podium, sauf une fois, depuis plus de 40 ans. Donc là, ces médailles-là, et ces titres-là, et a fortiori ces médailles-là, que la France n'a pas eu aujourd'hui, elles vont être, à mon avis, très, très compliquées à rattraper. Maintenant, pour atteindre l'objectif fixé, il va falloir non seulement que tous les tauliers répondent présent, et en plus qu'on ait quelques bonnes surprises. Sur une quinzaine olympique, en général, vous avez forcément des gens que vous n'attendez pas, comme Romain Cannon en escrime, qui sont médaillés ou encore mieux champions olympiques, et quelques-uns qui passent au travers. Là, le problème, c'est que sur cette première semaine, pour l'instant, on a eu énormément de candidats au titre qui n'ont même pas fini sur le podium. Donc, on risque d'avoir un déficit à la fois en nombre de médailles et à la fois en nombre de titres, même si, paradoxalement, je suis presque plus optimiste pour les médailles d'or que pour le total de médailles d'ici la fin des Jeux.
Parce que quand on regarde ce qui reste, bon déjà on n'aura plus judo et l'escrime la semaine prochaine, mais judo ça se termine demain, enfin samedi. Ce sont les deux plus gros pourvoyeurs de médailles sur cette Olympiade évidemment, mais dans l'histoire c'est deux des trois plus gros sports qui rapportent des médailles, donc déjà ça c'est compliqué. Il reste quoi la semaine prochaine? Il reste un peu d'athlée. L'athlée sortie de Kevin Mayer, si on parle juste de médaille d'or, ça paraît compliqué. Alors, pourquoi pas un Diniz ? Alors, il y a beaucoup de pourquoi pas, mais assez peu de certitudes. Sur la piste, le cyclisme sur piste, qui est lui aussi, on va dire traditionnellement, un sport qui ramène beaucoup, beaucoup de breloques, là aussi, ça va être un petit peu compliqué et ça risque d'être dur. Alors, à part en Omnium Homme, ça va être compliqué d'aller chercher des titres. Donc, alors il y a les sports co, le basket et le hand masculin qui ont montré vraiment de belles choses, mais ça rapporte que deux médailles. Ça va être compliqué d'aller chercher les 40. Puis, si on regarde d'un point de vue strictement mathématique, on en est à 13. On n'est pas à la moitié des JO, mais pas très loin. Oui, c'est très très compliqué. Je rejoins Laurent quand il dit que les locomotives, ceux qui avaient les plus grosses ambitions, n'ont pas répondu présent, parce que finalement, quand on regarde, mis à part Clarisse Agbenou, y a personne qui est là. On peut parler de Louis en triathlon, Ferrand Prévost, voire Lecomte, Sylvain André qui était numéro un mondial en BMX, Boris Neveu qui venait pour chercher le titre. Enfin, il y en a Borel, l'épée par équipe. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Je vois pas honnêtement comment on peut attendre ce total-là.
Je suis totalement d'accord avec vous deux. Moi, j'y crois pas du tout. J'ai du mal à. Souvent, la deuxième semaine, en plus, on le sait, au jeu, n'est pas toujours la plus efficace, celle qui ramène le plus de médailles pour la délégation française. Et puis, vous avez à peu près tout dit, mais en plus, en athlé, les stars de ce qu'on peut vraiment attendre, je pense à Kevin Mayer, il a eu un souci, on le sait, au mollet, il a eu une lésion mollet, ce qui fait qu'il arrive au jeu avec quelques petits doutes. Lavinelli, qui était quand même revenu, même si évidemment, pour l'or, ce sera très compliqué, mais on le sait, il s'est tordu la cheville, donc forcément, ça va être là aussi, il y a beaucoup de doutes sur sa personne. Voilà, mais après. Et c'est pareil, moi, j'ai hâte de voir la deuxième semaine, notamment, évidemment, pour le sport co, et je pense au basket ou au handball. Mais c'est ce que dit Martin, ça, c'est qu'une médaille, c'est une longue aventure, parce que c'est vraiment deux semaines et il faut aller au bout. Mais voilà, au final, ça ne rapporte qu'une médaille et je pense qu'on aura du mal à atteindre les 40, j'y crois pas du tout. Et les 30, ce serait déjà très, très bien.
Alors, messieurs, quand même, j'ai juste un petit espoir. Alors, on dit ça chaque jour, notamment avec Laurent, ça nous fait beaucoup rire à la rédaction, mais j'ai un petit espoir quand même pour demain. Je me dis que, voilà, il faut une journée avec beaucoup de médailles. Alors, on s'attendait à ce que ce soit vendredi. Demain, il y a les demi du rugby à 7 chez les femmes. Il y a Picon et Goyard à la voile. Il y a le triathlon qui est triathlon mixte, le relais mixte, qui est triple champion du monde en titre. Il y a le judo par épreuve. Il faudrait un moment, en fait, une journée un peu folle. Il faudrait une journée où, dont on se souviendra, tu parlais de Rio tout à l'heure, dont on se souviendra dans 3 ans, une journée où ça tombe.
Celle-là, on s'en souviendra, Romain.
C'est sûr, on s'en souviendra, mais voilà, il faudrait l'autre face de la médaille, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de déceptions. Il faudrait.
Il y a un moment où ça va bien tourner. Ça va tourner, il va y avoir cette petite journée folle et peut-être samedi, ouais.
Et question un peu subsidiaire, est-ce que on est à 3 ans des Jeux de Paris 2024, on vise normalement 80 médailles à peu près, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous pensez qu'on peut décorréler les deux choses?
Ça pose beaucoup de questions. Moi, sur.
Ça, je ne pense pas, pour une raison simple, c'est qu'en revanche, si le nombre de médailles est décevant, la densité d'athlètes qui sont ce qu'on va appeler dans les places de finalistes, donc dans les 8 premiers, ce qui n'est pas rien quand même, hein, quand vous êtes 4e ou 5e mondial dans votre discipline, c'est que vous êtes compétitif. Le problème des Jeux, c'est qu'effectivement, on retient les 3 premiers. Mais on a quand même, dans beaucoup de sports, beaucoup de disciplines, une densité d'athlètes ou d'équipes qui sont quand même compétitives. Donc, ce n'est pas un problème de niveau pour moi. C'est une somme de ce qui fait la différence entre une 4e et une 3e place au jeu, autant en termes d'impact sur une carrière ou de caisse de résonance, c'est gigantesque, autant en termes de niveau, c'est parfois infime. Donc moi, je ne suis pas plus inquiet que ça par rapport à Paris 2024. Aujourd'hui, pour Tokyo, l'hypothèse la plus crédible pour moi, c'est une fourchette haute autour de 35 médailles maintenant. Parce qu'il faut se souvenir qu'à Rio, la France avait eu la majorité de ses médailles en première semaine, mais que l'athlète avait quand même rapporté 6 médailles. Aujourd'hui, imaginez que l'athlétisme français récolte 6 médailles à Tokyo, ça paraît, c'est même pas optimiste à mon avis, c'est complètement utopique. Donc, si on avait passé la barre des 40 médailles pour finir à 42 à Rio, c'est aussi parce que l'athlète avait eu beaucoup plus de médailles que prévu, alors il n'y a pas eu de titre. Donc, peut-être qu'on compensera, d'ailleurs, la Fédération d'athlétisme a a commencé à dire l'objectif, c'est de faire mieux qu'à Rio, sous-entendant que s'il y avait une seule médaille en or, bah, plan comptable du tableau des médailles, finalement, c'était mieux que d'avoir 6 médailles. Donc, de toute façon, on sera fixé dimanche soir, parce que là, il reste un week-end, là, il reste l'escrime, il reste le judo samedi. Il y a pas mal de chances de médailles encore, notamment en voile. Mais si à la fin du week-end, la France n'est pas à, on va dire à 20 médailles, alors les 40, on pourra oublier, et même les 35, ce sera très compliqué.
Alors, moi, j'ai plus de questions sur ça, parce que c'est vrai, je me rappelle de la Grande-Bretagne, notamment, on sait, ils avaient énormément préparé, ils avaient mis tout un plan en action pour les Jeux 2012 à Londres, pour faire briller leur délégation chez eux. Et on avait commencé, je trouve, à voir un peu l'effet de ce plan en 2008. La Grande-Bretagne, j'ai regardé, elle avait fini quatrième du bilan des médailles, avec 51 médailles en tout et 19 en or. Voilà, là, je ne vois pas encore l'effet de Paris 2024. Et ce n'est que dans 3 ans, j'allais dire. C'est ce qui peut m'inquiéter à mi-parcours. Après, on va peut-être avoir beaucoup de belles surprises dans la deuxième semaine, je l'espère.
Et je reviens sur l'idée des locomotives, c'est pour Paris 2024, il va falloir des têtes d'affiche, des champions sur lesquels on peut compter, des valeurs sûres. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, on n'en voit non seulement pas émerger, mais celles qu'on attendait ne sont pas forcément là. Alors, on n'est pas encore à la moitié des JO, donc on ne va pas tirer un bilan tout à fait définitif. Mais j'attends de voir, moi, les locomotives qui vont driver, qui vont tirer cette équipe de France jusqu'au JO 2024. On en parlera tout à l'heure, mais Teddy Riner, il va pas sur ses plus belles années. Renaud Lavillény, c'est pareil. Enfin, toutes les têtes d'affiche les grands champions français de ces dernières années. Moi, j'attends d'en voir émerger pour être optimiste pour Paris 2024.
Le Japon n'avait pas fait des grands jeux à Rio en 2016, hein, et ça ne les empêche pas de briller cette année. Donc, même si, OK, il y avait 50 différences, il n'y en aura que 3. Mais encore une fois, si on avait un désert total d'athlètes présents dans les 5 premiers, dans les 10 premiers, dans tous les sports, je serais très, très inquiet. On fera le bilan à la fin. Il faudra regarder le tableau des médailles, mais il faudra aussi regarder les places de finalistes pour voir dans quelle discipline on est plutôt présent et dans lesquels on est vraiment totalement absent. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est qu'on est redevenu quasiment totalement absent dans les deux sports qui sont les plus gros pourvoyeurs de médailles, qui sont la natation et l'athlétisme. Et si vous n'existez pas ou quasiment pas dans ces deux sports-là, bah, finir à 40 médailles, c'est quasiment un exploit pour moi. Parce que forcément, vous pouvez être les meilleurs du monde en hand ou en basket. Ça vous fera que 2 médailles à l'arrivée, ou 4 si vous êtes les meilleurs chez les hommes et chez les femmes. En athlée, c'est un peu plus, entre guillemets, facile de cumuler des médailles.
En natation, là, en ce moment, la semaine française est quand même un peu triste.
Ouais. Après, l'exemple type, ce que tu disais, Laurent, c'est un Maxime Grousset, 22 ans, 4e du 100 mètres, voilà, de se dire que dans 3 ans, il aura pris 3 ans de plus, et que peut-être que ce sera les Jeux pour lui. Et pour finir sur le Japon, qui à domicile a déjà battu son record de titre olympique, puisqu'en une semaine, ils en ont 17. C'était 16, le record auparavant. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. On va parler médailles, mais pas celles qu'on imaginait, avec le judo dans la deuxième partie de l'émission. Lui a une médaille, mais ce n'est pas celle qu'on imaginait. C'est notre question qui fâche. Peut-on se satisfaire du bronze quand on s'appelle Teddy Riner ? Pour nous aider à répondre à cette question, on accueille notre spécialiste judo, Stéphane Vrignot. Alors Stéphane, à tout seigneur, tout honneur, que penses-tu de ça ? Est-ce que Riner peut et doit se satisfaire du bronze ?
Dans les standards de Teddy Riner, non. Sa dernière médaille de bronze en grand championnat, c'est 2008. C'est à Pékin. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué à rafler tous les titres. Il est 10 fois champion du monde, 2 fois champion olympique. Donc, clairement, ça cadre pas. Ce qui ressort de tout ça, finalement, c'est que Teddy Riner s'est dit quand même ravi de cette médaille. Et je trouve que vraiment, c'est l'esprit olympique. Il dit que ça a un poids dans un palmarès, une médaille de bronze. C'est sa 4e aux Jeux Olympiques de suite. C'est rare, c'est exceptionnel. Et c'est un garçon qui a tellement banalisé l'exceptionnel qu'on se pose aujourd'hui cette question. Est-ce qu'il faut se satisfaire ou est-ce qu'il doit se satisfaire de cette médaille de bronze? La réponse est non. Il y a une réponse qu'on espère, c'est dans 3 ans à Paris 2024.
Laurent, on l'a vu faire ce geste justement, 4, pour souligner l'exploit, parce que justement, à gagner 4 médailles dans 4 Jeux olympiques différents, c'est un exploit, il faut le rappeler.
Oui, je pense aussi que par son geste, il voulait rappeler à tout le monde qu'au-delà du... On avait beaucoup parlé de la quête d'un troisième titre olympique qui aurait été historique, mais lui, par ce geste, il a rappelé que justement, il y avait eu cette médaille de bronze à Pékin que tout le monde a un petit peu oublié parce qu'on ne parlait que du double champion olympique et pas du triple médaillé. Et lui, ce qu'il a bien voulu rappeler à tout le monde, c'est que oui, maintenant, il n'a pas deux titres olympiques, il a quatre médailles olympiques. Et on ne peut pas galvauder une médaille olympique, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Moi, franchement, j'étais assez inquiet après sa défaite en quart de finale contre Bachaev. On se posait la question, est-ce qu'il va trouver les ressources physiques et surtout mentales pour aller chercher une médaille de bronze ? Et le fait qu'il y soit parvenu, évidemment, ça ne vaut pas un troisième titre olympique, mais je trouve que ça ajoute une forme de grandeur à ce qu'a fait Teddy Riner. Et puis, il y a une question de contexte aussi, c'est-à-dire que si en 2016, Teddy Riner avait terminé avec une médaille de bronze, pour moi, ça aurait été un échec vraiment assez retentissant. Mais là, si on prend en compte ce qui s'est passé depuis un an, depuis deux ans, le fait qu'il a très peu combattu, le fait qu'il a été battu, le fait qu'il a été blessé, en replaçant tout ça dans son contexte, je trouve que cette médaille de bronze, bah, c'est une forme de satisfaction pour moi. Alors évidemment, quand on est un compétiteur comme Riner et quand on a archi-dominé son sport, sa discipline, sa catégorie pendant quasiment une décennie, oui, on ne veut qu'une chose, c'est continuer à gagner. Mais les Jeux Olympiques, c'est pas l'or ou rien. C'est aussi une forme de réussite pour moi qu'il ait été chercher ce bronze. Et puis, demander à tous ceux qui aujourd'hui ont fini éliminés en quart de finale, qui ont fini quatrième, qui ont fini sixième, qui n'ont pas de médaille, si une médaille de bronze, ça vaut rien.
On l'a vu parler, justement, il a donné rendez-vous déjà à samedi pour l'épreuve par équipe. Il a dit « je peux être triple champion olympique en gagnant avec les équipes samedi ». Mais Martin, il a aussi parlé de Paris 2024. Et il y avait un sentiment un peu bizarre dans son discours parce qu'on avait presque l'impression qu'il faisait le bilan de sa carrière en expliquant qu'il avait duré, que c'est formidable. Mais d'un autre côté, qu'il allait vers Paris 2024. Je ne sais pas si tu as eu cette impression toi aussi.
C'était assez étrange parce qu'il a finalement justifié son échec du jour, parce que pour moi, ça reste quand même un échec, en disant qu'effectivement, ça s'expliquait par l'âge, par le fait que c'était difficile de continuer au très haut niveau, pas de continuer, de durer au très haut niveau, en rappelant que lui, il avait démarré à ce très haut niveau dès ses 17 ans, tout en se projetant sur Paris 2024. Donc, il y avait une espèce de paradoxe. C'est difficile de savoir si aujourd'hui, où se projette Teddy Riner aujourd'hui. Pour moi, c'est la déception qui l'emporte quand même sur la satisfaction, d'autant que je laisserai peut-être Stéphane en parler un peu mieux que moi après, mais on n'a pas senti non plus, on l'a pas senti aujourd'hui emprunté physiquement ou complètement handicapé par la blessure dont il parlait. Ça se passe bien contre l'Autrichien, il met Hippon. Par la suite, après sa défaite, il concasse le Brésilien, il laisse aucune chance au Japonais, et même contre Bachev, on a l'impression que malgré tout, il semble maîtriser les choses. Donc, c'est ça aussi qui rend la chose assez frustrante et qui, c'est pour ça que aussi moi je suis plus sur la déception plutôt que sur la satisfaction du bon, c'est que il a pas semblé à bout ou à court physiquement et de la même façon que si Kevin Mayer a le bronze en athlétisme ou si Agbenenou n'avait pas remporté l'or, il y a déjà très peu de locomotives dans cette équipe de France, trop peu de locomotives. Si en plus elle déraille, forcément, c'est une déception.
Mais la différence, Martin, c'est le contexte. Tu ne peux pas comparer Clarisse Agbenyenou, qui domine sa catégorie de la tête et des épaules, elle a tout gagné depuis 2016, qui a encore été championne du monde il y a quelques semaines, qui est invaincue en grand championnat depuis sa défaite en finale à Rio, et Teddy Riner, qui est sur une dynamique complètement inverse. Et en plus, Teddy Riner, il y avait quand même, sa préparation a été quand même très, très compliquée. Et Kevin Mayer, pour moi, il se rapproche plus de la catégorie de Teddy Riner que de Clarisse Agbenyenou. C'est aussi pour ça, je pense, que Riner a accueilli sa médaille de bronze avec une forme de sourire et il était plutôt positif à la fin de sa journée, alors que Clarisse Agbenyenou, avec de l'argent, à mon avis, ça n'aurait pas été la même musique. Donc tout est aussi une question de contexte et on ne peut pas en faire abstraction pour moi.
Alors ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est que Teddy Riner avait programmé à l'origine la fin de sa carrière aujourd'hui à Tokyo sur un possible troisième titre. Et puis, il avait soutenu en fait Paris 2024, il faisait partie du comité de soutien, et à la désignation de Paris, ville organisatrice des Jeux en 2024, il avait dit, en somme, la meilleure façon de soutenir Paris, c'est d'essayer d'y être. Donc, il avait pris ce pari-là, mais c'était se projeter assez loin quand même. Là, on parlait de 9 ans. Je rappelle que David Douillet a pris sa retraite à 31 ans aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et que ça faisait déjà 2-3 ans qu'il accumulait des blessures sérieuses. Et là, c'est quand même une chance pour Teddy Riner de dire à 32 ans, je peux encore me projeter sur les 3 prochaines années avec des programmes allégés parce qu'on sait il n'a pas fait les championnats du monde depuis 2017, son doublé en plus de 100 et en toute catégorie. Donc, c'est quelqu'un qui a su aussi se gérer et c'est pour ça qu'il dure. Et c'est finalement une chance. Et aujourd'hui, cette médaille de bronze, il l'apprend comme quelque chose qui n'est pas une histoire inachevée puisqu'il sait qu'il y a Paris derrière et c'est pour nous une énorme chance. Alors je rappellerai juste aussi un tout petit contexte qui était très intéressant, c'est que au début de sa carrière, il s'est révélé très tôt en junior en 2007 avec un titre en senior et là ses préparateurs, son staff dit il va falloir qu'on lui fasse prendre 10 kilos de masse musculaire pour pouvoir soutenir vraiment des combats beaucoup plus durs, beaucoup plus longs dans la grosse catégorie. Et c'est ce qui lui avait un petit peu manqué à Pékin en 2008. Et ce travail a été fait et bien fait. Il a été très, très bien géré. C'est pour ça qu'il a pu durer sur la longueur et qu'il en est là aujourd'hui à 32 ans avec des bonnes perspectives en sachant se gérer. C'est vraiment une preuve d'intelligence. Alors, il aura 35 ans quand même à Paris 2024. C'est pas rien, mais il va y aller. Et juste ça, c'est un énorme cadeau qu'il pourrait nous faire. Que d'essayer d'être présent, il l'avait dit assez tôt, j'irai pour la médaille.
Mais t'es sûr, toi, pour toi, t'es convaincu qu'il ira?
Si il est en mesure de le faire, oui. L'année dernière, il a fait en 2019, il a fait 8 combats, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment ralenti le rythme de ces combats. Cette année, il aurait dû en faire un petit peu plus s'il n'avait pas été blessé pour être tête de série. Et il fait juste ce qu'il faut pour rentrer dans le top 8 pour être tête de série et ensuite être exempté de premier tour. Et je pense que c'est vraiment dans sa tête. Et là, il y a un petit goût d'inachevé parce que à Tokyo aussi, il devait un petit peu refermer cette page frustrante des mondiaux toute catégorie de 2010 où on lui avait refuser le titre face à Kamikawa sur décision, c'est quelque chose qu'il avait très mal pris. Il s'était estimé volé et il voulait cette fin quand même en apothéose à Tokyo. J'ai bien remarqué quand même la façon dont il a salué 4 fois en se tournant à chaque fois le public, le maigre public, malheureusement, du Budokan, mais il savait où il était dans l'antre du judo. Ça lui faisait plaisir d'être là et cette médaille avait une saveur quand même particulière. Mais maintenant, c'est une perspective extraordinaire pour lui d'être à Paris, à la maison. Et finalement, mais ne pas terminer sur une médaille d'or à Tokyo, mais on peut imaginer terminer 3 ans plus tard sur une médaille d'or à Paris, là où il a eu aussi des succès absolument formidables en championnat du monde, où il a fait ses plus beaux championnats du monde, je crois que c'était en 2011. Donc là-dessus, maintenant, on a relancé la machine pour 3 ans, je pense.
Mais même finir sur une médaille à Paris, même s'il n'était pas champion olympique, s'il décrochait une 5e médaille en 5 Olympiades dans sa catégorie, ce serait quelque chose d'unique dans l'histoire du sport français aux Jeux. Donc après, moi, je me méfie toujours des propos tenus à chaud comme ça, que ce soit dans un sens, c'est-à-dire s'il avait dit « c'est terminé, je ne serai pas à Paris », on verra. En revanche, ce qui est sûr, c'est que sa chance, ce qui lui donne une perspective, c'est que les prochains Jeux, ils sont que dans 3 ans. Ça, c'est une chance quand on a 32 ans comme lui et qu'on est plutôt quand même sur la, allez, on va dire l'automne, peut-être pas l'hiver encore de sa carrière.
Messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur cette journée, sur cette médaille de bronze pour Teddy Riner. On va passer à la troisième partie de l'émission. On va maintenant parler de tennis, alors on ne va pas vous mentir, ce n'était pas prévu aujourd'hui, ça c'était avant que Djokovic perde deux matchs en une journée pour Djokovic, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est un tremblement de terre énorme. Il a perdu en demi-finale du simple et en demi-finale du double mix, ce qui fait que Djokovic ne sera pas champion olympique. Messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire, ces deux défaites de Djokovic? On l'a senti assez marqué, notamment à la fin du simple.
C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il raconte à l'issue de sa défaite. Il dit que donc son jeu s'est effondré, qu'il est arrivé ici extrêmement épuisé émotionnellement, qu'avec la pression des jeux pour faire gagner son pays, etc. Donc voilà, on l'a senti voilà, s'effondrer sur ces derniers jeux. Je sais pas, le rapprochement est peut-être un peu cavalier. Mais on remarque quand même que depuis le début des Jeux, il y a quand même quelques têtes d'affiche qui ont du mal à tenir leur rang. Alors Djokovic, le truc c'est qu'on l'avait vraiment pas senti venir puisqu'il écrasait tout jusqu'ici. Donc mais malgré tout, ça participe peut-être à un petit mouvement fond des stars des JO qui ont un peu de mal à tenir leur rang. Mais lui, pour le coup, depuis le début, était absolument intraitable. Donc,
ça ne me paraît pas comparable avec Simone Biles.
Ouais. Non, surtout, non, surtout évidemment, si je puis me permettre, il y a deux jours, il parlait de la pression. Alors, il ne comparait pas à Simone Biles, mais il parlait pour lui. Il disait « la pression est un privilège. En gros, je sais comment la gérer désormais. Ce n'est pas un truc qui l'use. » Donc, c'est vrai que c'est étonnant que deux jours après, il dise…
Peut-être que les conditions au Japon nivellent. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a assez clairement un petit mouvement de fou.
Après, on ne peut pas dire qu'il est perdu contre un peintre, puisqu'en face de lui, en simple, c'était quand même Sacha Zverev, Laurent.
Oui, on l'avait dit, Zverev, c'était probablement un des très rares joueurs dans ce tournoi qui, sur cette surface, pouvait potentiellement embêter Novak Djokovic. Maintenant, on l'avait dit, entre l'embêter et le battre, il y avait un monde. Moi, honnêtement, vous avez sûrement trouvé plein de gens qui vont vous dire qu'ils avaient vu des signes avant-coureurs, qui savaient que Zverev allait battre Djokovic. Moi, je ne le savais pas du tout. Je pensais que Djokovic allait appliquer le même tarif qu'à tout le monde. Hier, Kei Nishikori, en quart de finale, avait fait plutôt un bon match. Il avait pris 0 et 2 ou 2-0. Et Zverev, aujourd'hui, pendant un 7,5, il fait comme les autres, c'est-à-dire qu'il est mis 6-1, 3-2, break. Et moi, à ce moment-là, vous m'auriez dit que Djoko allait perdre les 8 jeux suivants, 10 des 11 derniers jeux pour prendre 6-1 dans le troisième set. Je ne l'aurais pas vu venir. Donc effectivement, ce qui est un peu étonnant, plus encore que la défaite, c'est ce côté coupure de courant totale, au moment où vraiment personne ne le voit venir. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Après, moi, l'hypothèse de la pression, j'y crois pas trop. Enfin, s'il y a bien quelqu'un qui a montré depuis le début de sa carrière et même, j'ai envie de dire, dans toute son existence, qu'il était capable de gérer toute forme de pression, c'est bien Novak Djokovic. Donc voilà, il a perdu un match. On verra dans quelques semaines, dans quelques mois, ce qu'il advient de sa saison. Mais aujourd'hui, il a juste perdu un match. Après, la défaite en double mixte, dans la foulée, je pense que c'était compliqué. Et pour moi, c'est un épiphénomène. Donc, il a une petite malédiction des JO. Il a bien fait d'avoir une médaille de bronze quand même à 20 ans à Pékin en 2008, à 21 ans. Parce que depuis, il va de déception en déception. Alors, il lui reste une médaille à aller chercher en simple. Ce sera intéressant de voir comment il va réagir. Mais je suis surtout très, très étonné. Après, Sacha Zverev a vraiment fait un gros match. Et honnêtement, même le 6-1 dans le premier set était sévère pour lui parce qu'il avait parfois accroché Djokovic, notamment sur le service du Serbe. Sauf qu'il n'arrivait pas à être opportuniste, à être agressif sur les points importants, ce qu'il a su faire à partir du deuxième. Et c'est lui qui se remet dans le match. Ce n'est pas Djokovic qui le remet. Et en revanche, après, c'est vrai que le Serbe a quand même grandement facilité sa tâche, mais bravo quand même à Zverev.
Alors, je suis totalement d'accord. En fait, c'est étonnant, je pensais à ça par rapport au jeu, parce qu'il a quand même un parcours au jeu. J'ai regardé, il avait évidemment perdu, on s'en rappelle, en premier tour en 2016 contre Del Potro. Et en fait, il avait dit à l'époque que c'était un des moments les plus durs à vivre de sa carrière, ce qui rappelle toute l'importance aussi des jeux. C'est pas mal parce qu'en tennis, il y a eu quand même une période un peu compliquée pour le tennis au jeu. Là, beaucoup de gens n'ont pas voulu venir parce qu'il n'y avait pas de supporters, parce que c'était difficile avec la bulle, etc. Et je trouve que Novak Djokovic incarne un peu aussi cette valeur de l'olympisme, c'est-à-dire on sent que ça compte énormément pour lui. Et justement, alors j'ai du mal aussi à croire que c'est une question de pression, j'y crois pas. Enfin, c'est ce que tu disais, Laurent, quand on connaît la carrière du Serbe, je peux pas croire qu'il se soit écroulé comme ça. Mais les Jeux Olympiques, c'est quand même particulier et je trouve qu'il y a un contexte, il y a un univers, c'est aller chercher une médaille pour son pays alors qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de prize money à aller chercher derrière. C'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin et qui peut peut-être trotter un peu de temps en temps dans les têtes, qui peut peser. Mais en tout cas, c'est vraiment un moment clé et je pense que ça va encore le marquer. Et on se rappelle, en 2016, il était un peu dans un contexte, Laurent, tu pourras me le confirmer, mais il était numéro un mondial, il avait enchaîné les grands chelems. Un peu identique avant de s'écrouler à Rio.
Ouais, alors, le contexte était différent parce que c'était le début de ses ennuis. On ne le savait pas encore tout à fait, mais il avait été éliminé assez tôt à Wimbledon. ce qui avait été vraiment un gros choc parce qu'il venait de faire le grand chelem en carrière et le grand chelem sur 2 ans en gagnant enfin Roland-Garros. Il archi-dominait le tennis, mais quand il arrive à Rio, il y a eu cette défaite à Wimbledon qui a déjà quand même interpellé. Alors que là, effectivement, c'est... là, il arrivait...
Il était intouchable.
À... Ah, là, il était intouchable, oui, donc... Je pense que le contexte est un petit peu différent, mais on verra. Moi, en fait, je pense que si Novak Djokovic remporte l'US Open et qu'il fait le grand chelem, ce sera dommage qu'il n'ait pas été champion olympique. Ce sera surtout dommage si, à la fin de sa carrière, il s'arrête sans avoir été champion olympique, alors que vraiment, il aura tout fait pour. Hein. Tu l'as dit, Glenn, il a toujours pris très au sérieux, très à cœur. Et là, on l'a vu, même il s'amusait à Tokyo. Il a fait des... s'est pris en photo avec tout le monde. On sent qu'il était heureux d'être là. C'est important pour lui. Le drapeau, c'est important pour lui. Mais s'il fait le grand chelem, son année sera historique, pour, j'ai envie de dire, pour l'éternité. C'est-à-dire qu'on parlera dans 30, dans 50 ans, on parlera de l'année 2021 de Novak Djokovic. Les Jeux, le titre olympique pour le Golden Slam, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Le problème, c'est que là, il devait manger la cerise avant de manger le gâteau. Et c'est en ça que je pense que pour lui, ça aurait peut-être été mieux que l'US Open arrive avant les Jeux, parce que là, il aurait pu, dans l'absolu, être totalement libéré s'il avait fait le grand chelem en arrivant à Tokyo. Là, le contexte était peut-être un peu moins favorable pour lui. Après, il y avait quand même beaucoup d'absents. Donc, j'ai envie de dire qu'avec tout ce qu'il avait montré, la façon dont il domine le tennis depuis des semaines et des mois, voire des années, il aurait, sur ce qu'il a montré depuis, allez, on va dire depuis, rien que depuis le début de l'année, il aurait dû gagner ce tournoi.
Vous écoutez, vous n'êtes pas inquiet. On n'est pas sur la situation que vous avez dit en 2016. Et de se dire que, justement, d'avoir fait le choix de venir à Tokyo, ce n'est pas une petite gourmandise qui peut le faire dérailler. Justement, c'est comme tu le dis, Laurent, sur la route du Grand Chelem.
Il a déjà connu des moments de doute et où il s'est redressé. Je suis pas du tout inquiet.
Mais c'est un peu tôt pour répondre à cette question. Honnêtement, c'est un peu tôt. On ne sait pas forcément tout ce que ça va impliquer. Mais enfin, aujourd'hui, c'est quand même un petit peu trop tôt, à mon avis, pour annoncer une débandade de Novak Djokovic d'ici la fin de l'année.
On n'hypothèque pas encore la maison sur les sites de Paris sur une défaite de Djoko à l'US Open. Messieurs, on a fait le tour. On va passer à l'événement de samedi. Ce sera évidemment avec Florent Manaudou qui est en demi-finale du 50 mètres nage libre. La question est simple. Est-ce qu'on peut imaginer Florent Manaudou réussir un très gros coup sur sa distance de prédilection? On rappelle très vite Florent Manaudou. Pendant un temps, il s'est arrêté de nager. Il est parti faire du handball. Il est revenu à la natation. Au début, ça se passait plutôt bien. Très vite, il était performant. Puis, il y a eu le confinement qui l'a un peu déréglé. Et puis là, finalement, on se dit qu'avec l'odeur de la compétition, je vais dire l'odeur du 100, enfin plutôt l'odeur du 50, eh ben, il se retrouve. Il a fait le deuxième temps des séries vendredi. Est-ce que Florent Manaudou peut aller chercher une nouvelle médaille sur le 50, selon vous?
Il y a deux choses. Aller chercher une nouvelle médaille ou aller chercher la médaille d'or. Parce que c'est pas pareil. Si on parle d'aller chercher la médaille d'or, moi j'y crois pas vraiment, tout simplement parce que pour moi Caleb Dressel, qui est la star en ce moment dans les bassins, est au-dessus du lot. Il a une marche sur les autres. Il l'a encore montré d'ailleurs dans les séries. Il était juste à côté de lui dans le bassin, le couloir d'eau à côté. Il l'a dominé, il n'a pas forcé. Voilà, je pense que Dressel est au-dessus du lot. En revanche, ce qui m'a plu avec Florent Manaudou, c'est ce que tu dis, c'est que voilà, il y a l'odeur du sang, il y a l'odeur de la compétition, et il répond présent, il est là, il fait sa meilleure perf de la saison, ce qui est rassurant parce qu'il a quand même eu toute une période cette année où il était dans le dur avec pas mal de chronos au-dessus des 22 secondes. On se rappelle, au championnat d'Europe, il y a quelques mois seulement, il fait cinquième au championnat d'Europe alors qu'il avait déjà fait son meilleur chrono de la saison en demi-finale. Donc, j'ai quand même des doutes sur sa capacité à enchaîner et à aller plus loin. En revanche, ce que j'apprécie, et il en a parlé après, c'est qu'il est là, il est libéré, il a envie de se faire plaisir dans ces Jeux Olympiques. Et je pense que c'est là sa meilleure arme dans ces Jeux, c'est-à-dire sans pression, on se fait plaisir, on donne tout et on voit ce qu'il y a au bout, que ce soit, je ne pense pas l'or, mais un podium, ce serait déjà magnifique pour, on le rappelle, il était quand même sacré à Pékin, donc ça commence non, à dater. À Londres, évidemment.
Mais pour moi, ce serait un exploit. Déjà, le podium, c'est quand même un nageur qui s'est éloigné des bassins pendant 2 ans et demi. Et la nata, je pense que c'est encore plus exigeant quand on s'éloigne des bassins pour revenir à ce niveau-là, revenir, on va dire, en finale olympique plus un podium. Quand on sait ce que c'est que la charge, la natation, les sports de répétition comme ça, ce serait absolument, pour moi, moi, je considérais déjà ça comme un exploit d'avoir la médaille. Après, ce qu'a dit Glenn sur le titre, je suis tout à fait d'accord avec lui. Les 21-04 de Dressel me paraissent un peu compliqués à aller chercher parce que ça se jouera sans doute dans ces eaux-là. Son meilleur chrono jusqu'ici, c'était 21-67. Alors, il a battu son record perso aujourd'hui, mais il lui a pas non plus mis une claque. Mais je reste persuadé qu'un podium, alors que on pensait que c'était terminé, hein, tout simplement, Manodou après Rio, franchement, ça aurait franchement de la gueule.
Le 50, ça reste une course indécise quand même, Laurent. Il y a peut-être ce côté roulette qui permet d'y croire parce que c'est peut-être la course de natation la plus, on va dire, la plus imprévisible, on va dire, de tout le plateau.
Bon, d'abord, il faudra rentrer en finale. Hein. Et c'est, ça peut paraître simple au vu des chronos qu'on a vus dans les séries, mais c'est exactement ce que tu dis sur le 50. Parfois, ça se joue à un centième près. Donc déjà, première étape, rentrer en finale. Après, moi, je pense vraiment qu'une fois en finale, tout sera possible. Et Manodou l'a dit d'ailleurs. Il a dit « Ok, j'ai le deuxième chrono, mais si je nage un dixième moins vite, je suis huitième ou neuvième temps. » Donc, c'est très, très, très dense. Alors, c'est vrai que Dressel paraît complètement au-dessus, mais Dressel, peut-être qu'à un moment aussi, il va sentir la fatigue ou une forme de pression parce que lui, il enchaîne depuis maintenant. Bah, ça fera une semaine hein, quand on sera à la finale du 50 mètres nage libre. Donc, moi, c'est marrant Glenn parler de ça tout à l'heure et ça m'a frappé ce qu'a dit Florent Manodou, qu'il prend du plaisir et qu'il n'en avait pas pris à Rio parce qu'il avait trop, justement, de pression, qu'il était le favori. Et je pense que Florent Manodou, il s'exprime, comme beaucoup d'athlètes, mieux quand il est libéré, c'est-à-dire comme à Londres, où il avait surpris tout le monde, il n'était pas attendu, ou comme ici, où il revient et où finalement, bah, comme tu dis, Martin, s'il est sur le podium, ce sera considéré comme une forme d'exploit. Et donc, s'il termine comme d'autres, quatrième ou cinquième ou sixième, ce sera une déception, mais on se dira quand même, bon, de toute façon, limite, on sera moins déçu qu'après sa médaille d'argent à Rio. Donc, moi, je pense vraiment que c'est une finale où tout peut arriver, mais il faut d'abord y entrer. C'est la palissade, ce que je dis, mais là, on est en train de parler de podium, peut-être de victoire, mais d'abord se qualifier pour la finale.
Nous sommes d'éternels.
Que je trouve très agréable. Exactement. Ce que je trouve très agréable, en tout cas, si on met de côté les questions de podium, c'est vraiment moi cette notion de plaisir, parce qu'on le sait avec la famille, on se souvient de leur Manodou, etc. C'est ce que dit Martin, la natation, c'est tellement dur, c'est tellement un sport. J'admire tous les nageurs pour les efforts qu'ils font au quotidien pour réussir à être au sommet, de durer sur la longueur, c'est quand même un truc exceptionnel en natation. Et là, je trouve ça quand même assez agréable, justement, d'avoir un Manodou qui prend plaisir dans un bassin. Qu'importe ce qu'il fait, moi, je serais déjà content de l'avoir revu aux Jeux Olympiques cette année.
Et juste un petit truc sur les chronos de la finale du 50. Parfois, sur les finales de 50, ça nage un petit peu moins vite qu'en demi, parce qu'il y a beaucoup de crispation. Et bah, ce n'est pas un 100 mètres, c'est une longueur de bassin. Donc, il suffit que vous partiez un tout petit peu moins bien, que vous enclenchiez un tout petit peu moins bien, que vous crispiez un tout petit peu. Et parfois, ça va moins vite qu'en série ou en demi. Méfiance aussi sur les chronos qu'on a vus aujourd'hui en série, qu'on verra lors des demi-finales. Ça ne présage pas forcément de ce qu'on verra lors de la finale du 50.
Qu'a lieu dimanche. Si,
Ouais. Bien, merci messieurs. Vous avez été parfaits comme d'habitude.
Toi aussi, Maxime.
Exceptionnel.
Bon, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a dû faire beaucoup de coupes quand même.
Voilà, Et de toute façon, demain, je rends la place à Adrien Yo, le grand.
Alléluia.
La Director's Cut dure 1h30 à peu près.
Et d'ailleurs, il faut le dire, Adrien Yo est celui qui a joué le générique d'intro de cette émission au Bon Tant Pis. Donc c'est lui, tous ses talents. Il joue aussi, et la batterie pendant les jingles, c'est lui aussi.
Mais
c'est
formidable. Sur son skateboard ou...
Sur son skateboard, évidemment. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les bonnes plateformes et aussi les moins bonnes. Comme d'habitude, vous abonnez, vous nous mettez 5 étoiles. Et puis on se retrouve demain pour la suite des Jeux Olympiques. Salut à tous.
Ciao.
Salut.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.